Voici les infos, Anaïs Fega.
C'est un tout petit prix à payer selon Donald Trump. Cette envolée des cours du pétrole qui connaît une accélération depuis hier, 30% en quelques heures pour le baril américain de référence, 70% depuis le début de la guerre en Iran il y a 10 jours. Avec un pétrole qui a donc brièvement frôlé les 120 $, le gaz européen, lui, prend 30%. Conséquence des attaques iraniennes contre les réserves pétrolières et de la quasi-paralysie du transit par le détroit d'Ormuz, où passe 20% du pétrole et du gaz naturel liquéfié mondiaux, dont dépendent les locomotives économiques comme le Japon ou la Corée du Sud. Les bourses asiatiques dévissent de 6% ce matin. Les bourses européennes attendues aussi en baisse. En France, le gouvernement étudie l'option du recours aux réserves stratégiques. Ce prix du pétrole, on l'a dit, lié au bombardement contre les installations dans le Golfe. Nouvelle salve de missiles cette nuit sur le Koweït, le Qatar, l'Arabie Saoudite. Des missiles lancés après l'entrée en fonction du nouvel homme fort d'Iran, Mojtaba Khamenei, 56 ans, le fils d'Ali Khamenei. Son nom circulait depuis plusieurs jours. Un homme discret, mais qui connaît parfaitement les rouages du pouvoir et qui succède donc à son père, Nicolas Taillard.
Et qui sera manifestement chargé de perpétuer l'héritage d'un père auprès duquel il a tout appris au cours des trois dernières décennies, comme collaborateur de l'ombre et conseiller de plus en plus influent. Ascension lente qui lui a permis de tout connaître des rouages du régime, de tisser ses réseaux, d'établir des liens très proches aussi avec les figures de l'appareil sécuritaire des gardiens de la Révolution au Basiji, cette police parallèle du pouvoir. Si Mojtaba Khamenei n'a jamais été désigné publiquement par son père comme un successeur, sa nomination marque une volonté claire d'afficher la résistance du régime, un symbole de continuité, de fermeté aussi. Avec sa barbe grisonnante, son turban noir, Mojtaba Khamenei est considéré comme un dur, opposé à la moindre ouverture. Sa nomination résonne comme un affront à Israël, qu'il a déjà désigné comme cible, et à Donald Trump, qu'il a qualifié de poids-plume la semaine dernière et qui a réagi cette nuit d'un sobre « not happy ». Pas content.
Mojtaba Khamenei, choisi hier soir donc par un conseil de religion en Iran, les gardiens de la révolution, les forces armées et la police ont aussitôt prêté allégeance au nouveau leader. Et ce matin sur Inter, le ministre français des Affaires étrangères demande au régime iranien de consentir à des concessions majeures. En Belgique, une explosion cette nuit devant une synagogue à Liège. Pas de blessés mais des dégâts matériels. La police est sur place. Pas d'indication pour le moment sur l'origine de cette explosion. C'est la dernière ligne droite avant le premier tour des municipales. On vote dimanche à La Réunion. Les habitants de Saint-André, 58 000 habitants, assistent à une bataille électorale assez inédite. Deux frères se présentent parmi les 8 candidats, tous les deux fils du maire historique de la ville, Jean-Paul Virapoulet, qui a régné 42 ans sur la commune jusqu'en 2020. Reportage sur place de Juliette Pierron.
Et on rencontre d'abord l'aîné, Jean-Marie Virapoulet, devant sa permanence. Le candidat centre-droit, soutenu par son père, balaye la question de la concurrence avec son frère.
Ce qui me préoccupe, c'est la souffrance de la population. Ça n'est pas de savoir qui est candidat. Donc moi, ce que je souhaite, c'est vraiment être nettement en tête ce qui va se passer au soir du premier tour pour rassembler au second. Le reste m'importe peu.
Au même moment, le frère cadet s'apprête à monter sur scène devant plus de 1000 personnes.
Grand meeting de Laurent Virapoulet.
L'une de ses mesures phares, c'est la lutte contre l'immigration venue des Comores. Le candidat, soutenu par le RN, rappelle qu'il est là par conviction.
Mais il n'y a pas de clan Virapoulet. Je pense que le pouvoir, il se conquiert. Ce sont les électeurs qui décident. Moi, je ne me définis pas par rapport à mon hérédité, je me définis par rapport à mon approche politique qui est, comme je vous l'ai dit, originale. Personne ne parle du problème de l'immigration illégale. Tout le monde en a peur.
Cette guerre entre frères arrange bien le maire actuel d'hiver gauche, Joé Bédier, candidat à sa réélection.
Plus il y a de la division en face de moi, mieux c'est. Ce ne sont pas mes adversaires, ce sont des adversaires de Saint-André. Moi, je crois que mon travail, tout ce cheminement que j'ai fait depuis 2020, les gens le constatent.
En tout cas, c'est ce que répète la voiture sono du candidat dans les rues de Saint-André, une tradition réunionnaise à chaque élection locale.
Au reportage à La Réunion de Juliette Pierron, la route était fermée depuis un impressionnant éboulement fin janvier à cause des intempéries. La RN20, principal axe routier entre la France et l'Andorre, a rouvert ce matin avec un dispositif de sécurité, des feux rouges reliés à des capteurs sur la falaise qui bloqueront la circulation en cas de danger. Enfin, en foot, un pénalty au bout du temps additionnel et Lyon évite la défaite et arrache le nul sur son terrain un partout face au Paris FC. Match de clôture de la 25e journée de Ligue 1. Les Lyonnais descendent du podium au profit de Marseille.
C'était le journal d'Anaïs Fega. Merci Anaïs. Restez à l'écoute. Dans un instant, le magazine de la grande matinale.
France Inter, 10h, Ali Rebéi.
Ce lundi, dans Grand Bien vous fasse, comment réguler naturellement le cortisol, l'hormone du stress? Toutes vos questions sur WhatsApp et au standard au 01 45 24 7000.
Grand Bien vous fasse.
C'est tous les jours à 10h sur France Inter.
C'est nul d'être un adulte. Les adultes, ils doivent travailler toute la journée.
C'est vrai, oui.
Mais nous, on a le permis de conduire.
Être adulte, c'est profiter d'émotions uniques au volant. Essayez l'Alpina 290 dès 240 euros par mois avec 7650 euros de prime gouvernementale coup de pouce bonifié pendant les Blue Days du 12 au 16 mars. A 290 GT hors option, LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer, 2750 euros, prime maximum, certes énergie déduite. Si accordiaque, offre à particulier. Plus d'infos sur alpinecars.fr. Blue Days signifie journée bleue, pensez à covoiturer.
Il est 9h et presque 8 minutes sur France Inter. Allez, c'est parti pour une nouvelle semaine, main dans la main, de 9h à 10h pour le magazine de la Grande Matinale. Charline Vanhoenacker est de retour, très en forme, tenez-vous prêts. Daphné Burki est de retour aussi, encore plus en forme, vous êtes prévenus. À 9h30, vous retrouverez le débat du jour. Il portera sur ces municipales dont la campagne semble avoir été quasi inexistante dans les médias ces derniers mois, comme s'il y avait eu toujours plus important à traiter. Les médias ont-ils zappé les municipales? On en discute tout à l'heure, mais tout de suite, le grand portrait.
France Inter, la grande matinale, Sonia De Villers.
Il court, Mathieu Blanchard, il court sous la pluie, il court dans la boue, sur la neige, dans les caillasses, sur du plat, dans des pentes infernales. Il court par grand froid, froid cauchemardesque même. Il court des heures, des nuits, des jours d'affilée, n'offrant à son corps que le strict minimum de repos. Il était ingénieur, sportif certes, mais fêtard aussi. Il s'est mis à vraiment courir assez tard dans la vie. Est-ce que mûrir l'a fait courir ou bien... est-ce l'inverse? Est-ce que courir l'a fait mûrir? Il nous le dira, je ne sais pas. Je sais seulement qu'il a participé à l'émission Koh-Lanta. Je me dis que forcément, les très grands coureurs ont dû le prendre pour un pitre. Sauf qu'aujourd'hui, il est devenu une star mondiale des courses d'endurance en montagne, appelée trail, voire ultra trail, tant ses courses sont titanesques. Portrait numéro 102.
C'est incroyable! Ce que j'ai au-dessus de ma tête, des aurores boréales dans tous les sens, à droite, à gauche, au-dessus de ma tête. C'est complètement dingue. J'ai l'impression d'être dans un rêve. Qu'est-ce que c'est beau. Waouh.
C'est ça, de courir dans le Grand Nord, de tutoyer le cercle polaire. Ça n'est pas que ça, on va en parler. Bonjour Mathieu Blanchard.
Bonjour.
Vous venez de rentrer de Laponie, vous avez remporté la Lapland Arctic Ultra, 185 km dans la neige en 37 heures. Et votre grand exploit à ce jour, c'est d'avoir remporté la Yukon Arctic Ultra, 608,7 km, 11 114 mètres de dénivelé, en 7 jours et 22 heures. Ça a donné un film, L'Appel du silence, dont on vient d'entendre un extrait. Film qui va tourner dans les cinémas, les festivals, qu'un jour ou l'autre, on le retrouvera peut-être en libre accès sur YouTube. Le Grand Nord canadien suit le tracé du Yukon Quest. C'est un tracé légendaire. En quoi c'est un tracé légendaire?
C'est un tracé légendaire parce que c'est une course de chien de traîneau. Le chien de traîneau, ça a toujours été un moyen de transport classique, comme nous ici en voiture là-bas. Et c'est légendaire aussi parce que c'est un petit peu l'histoire de Jack London.
Ouais,
cet auteur du roman L'Appel de la forêt qui a marqué des générations dans moi et qui se déroule au Yukon avec un chien héros, chien de traîneau. Donc voilà, tout ça se passe au Yukon et c'est légendaire.
Les chercheurs d'or de la fin du 19e siècle. Le froid. Le froid, c'est votre principal adversaire, dites-vous dans le film. La course démarre par moins 41 degrés. Ça peut descendre jusqu'à moins 50, ouais, c'est ça. Jusqu'à moins combien le froid est-il à peu près supportable?
Alors ça, c'est vraiment très individuel, mais pour moi, jusqu'à moins 20, moins 25, c'est à peu près gérable avec le matériel. On peut s'arrêter, boire, manger, mais en dessous, ça devient très critique.
Là, vous sentez le point de bascule?
Ouais, je sens vraiment le point de bascule à partir de moins 30, où s'arrêter n'est même plus possible, en fait. Il faut toujours être en mouvement pour rester chaud.
Alors, il y a toujours être en mouvement, mais il y a aussi que vous ne pouvez jamais découvrir un centimètre de peau.
Tout à fait, à partir d'une certaine température, c'est tellement tellement froid que ça vient brûler la peau, au même titre que quand on se met au soleil à 50 degrés dans le désert, ouais. Ça vient brûler la peau, mais il y a le même effet dans le froid, donc on pourrait pas enlever nos gants pour refaire nos lacets par exemple, sinon on peut se brûler la peau, voire avoir une engelure qui pourrait conduire à une amputation, ce qui est très grave.
Alors, c'est très grave, mais c'est le lot, en réalité, de ces courses. Il y a une photo dans le film d'un des participants d'il y a 2 ou 3 ans qui a fini avec ses 4 membres amputés.
Tout à fait. Il s'est poussé tellement loin dans la fatigue parce qu'en fait, on doit aller du point A au point B qui est 600 km plus loin, comme on veut, en gérant comme on veut le sommeil. Et c'est vrai que quand on se pousse un petit peu trop, on peut avoir des hallucinations qui nous amènent à imaginer qu'on se retrouve par exemple dans un hôtel, et c'est ce qui est arrivé
au chaud.
Voilà, et c'est ce qui est arrivé à cet athlète italien Roberto qui s'est imaginé dans un hôtel. Les secours l'ont retrouvé sans gants et sans chaussures, pieds nus dans la neige, et c'est vrai que le mal était fait, ils ont dû l'amputer de ses 4 membres.
Vous en avez vécu, vous, des hallucinations ?
Oui, j'ai eu énormément d'hallucinations parce que c'est une première expérience pour moi sur une telle distance, donc j'ai voulu un petit peu me tester aussi. Et c'est vrai qu'à partir de la 3e nuit, on commence vraiment à avoir beaucoup d'hallucinations, c'est ce que j'ai eu.
Alors, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'on voit réellement, au début, c'est des altérations de la réalité. On va avoir par exemple un tronc qui va se transformer en sanglier, un arbre qui va se transformer en totem, c'est un peu des déformations de la réalité. Et à terme, ça devient vraiment des hallucinations qui se créent directement sur le chemin, qui ne sont même plus des altérations de la réalité. Et alors là, j'ai pu voir des animaux, des personnages de dessins animés, des loups dans le ciel, des kaléidoscopes.
Et dans ces moments-là, vous vous sentez partir ? Vous sentez que vous êtes en train de délirer ? Ou ce qui est extrêmement dangereux, c'est ce qui est arrivé à Roberto Zanda, c'est-à-dire qu'il ne sait même plus qu'il est en train de basculer, il s'y croit vraiment dans sa chambre d'hôtel, il enlève ses gants, ses chaussures.
Je ne me suis pas rendu jusque-là, mais c'est vrai que quand on a des hallucinations, on en est conscient. C'est ça qui est rigolo, on joue un petit peu avec
entre
ça. Je suis tellement fatigué qu'en fait, je suis en train d'halluciner, mais je suis conscient. C'est pas comme quand on prend, par exemple, de la drogue, bon, c'est pas ce que je fais, mais où on peut perdre un petit peu la conscience. Là, on l'a encore, donc on joue un petit peu avec ça, et on sait que c'est là qu'il faut aller se reposer parce que ça devient dangereux.
Il est 10h30 du matin. Au fond de mon sac de couchage, il fait extrêmement froid. Ah, j'ai froid. Je suis trempée. Je tremble. J'ai une petite boule. J'en peux plus. Je sors, je meurs, je reste. Je gèle. Nourri. Pourquoi je suis là ?
Vous vous souvenez de ce moment de craquage ?
Ouais, c'était affreux parce qu'en fait, je l'expliquais tout à l'heure, le froid, la seule manière de le combattre, c'est pas avec les vêtements, c'est avec le mouvement. Sauf que quand on est épuisé, qu'on ne peut plus bouger, on se couche dans son sac de couchage, sans tente, je le rappelle. Et là, en fait, c'est que si on n'a pas la force pour combattre le froid, on est un peu foutu parce qu'en fait, la seule manière de se réchauffer, c'est de se lever, de repartir, mais on n'a plus la force de repartir. Donc on se retrouve
à pleurer pendant que ça de couchage. C'est que l'autre grand ennemi, c'est l'humidité.
Oui, tout à fait. L'humidité, c'est l'eau est 25 fois plus conductrice que l'air. Ce qui fait qu'à partir du moment où on est mouillé parce qu'on a mal géré notre transpiration, on va avoir froid 25 fois plus vite. Donc vraiment, c'est un ennemi
redoutable.
L'humidité, il ne faut vraiment pas transpirer ou se verser de l'eau dessus parce que là, ça peut devenir vraiment dangereux.
Il y a quelques jours, enfin le 15 février, vous abandonnez une autre course extrêmement importante qui se déroule dans le Tennessee aux États-Unis, qui s'appelle la Barclays Marathon. Et ça a été un mélange permanent de froid et de pluie. C'est ça qui vous a tué sur le parcours ?
Tout à fait, il a fait 0, moins 5 degrés, donc certaines personnes se sont dit, mais tu survis à moins 40, comment tu as fait pour avoir froid à moins 5 ? C'est parce qu'il pleuvait énormément, et c'est là qu'on voit que l'humidité, quand on est mouillé, ça augmente la conduction thermique, et on peut avoir beaucoup plus froid, et j'ai eu une réelle hypothermie sur cette Barclay, alors qu'il faisait que moins 5
degrés. Vous n'êtes pas le seul à avoir abandonné en réalité, d'après ce que j'ai compris, personne n'est arrivé au bout.
Personne n'est arrivé.
C'était cauchemardesque,
tout à fait, c'était cauchemardesque, pluie, vent sur les crêtes, moins 5, j'avais les doigts complètement bloqués, c'était vraiment... c'était un calvaire.
Et par ailleurs, au milieu de la Yukon, donc de ces 600 km traversés sur le Yukon Quest, vous avez aussi vécu un moment extrêmement douloureux. C'est le moment où vous n'arrivez plus à respirer, où les poumons sont quasiment bloqués. Là aussi, vous avez hésité à abandonner.
Oui, tout à fait. Ça ne m'était jamais arrivé. J'avais eu beaucoup d'expériences au Québec de courses par moins 30. Le temps d'une journée, ça passait très bien. Et là, c'est vrai que sur plusieurs jours, à respirer de l'air entre moins 30 et moins 40, mes alvéoles sont venues complètement se geler. Et j'arrivais plus à respirer. C'était, je le dis dans le film, comme si j'étais un poisson qu'on avait sorti de l'eau. Je cherchais mon air et j'ai vraiment eu très très peur parce que respirer, c'est vivre. Et de plus pouvoir respirer, ça fait vraiment peur. Donc c'est sûr que quand je suis arrivé dans un checkpoint, je me suis posé la question à l'idée de repartir. Il y avait un médecin qui était là qui me conseillait de ne pas repartir. Bon, j'ai attendu qu'elle aille se coucher pour repartir.
Médecin qui vérifie les orteils, les doigts, oui. Les oreilles, le bout du nez, ou à la moindre trace d'engelure, vous ne pouvez pas continuer la course.
Tout à fait, c'est notre garde-fou. Et puis les médecins là-bas, s'ils décident qu'on ne reparte pas, on ne repart pas.
Ça n'a pas empêché les amputations multiples.
Parfois, le mal est fait et ouais. Ça part là-bas. Ouais.
Voilà l'appel du silence. Mathieu Blanchard, vous l'avez gardé, malgré 10 ans au Québec, vous l'avez gardé cet accent provençal.
Il est bien ancré celui-là.
C'est vrai. Vous êtes l'aîné d'une grande fratrie, vous êtes 5 frères, une sœur, c'est ça ?
Tout à fait.
Voilà. Vous avez grandi du côté de Cavaillon, après vous avez suivi vos parents en Guadeloupe, où ils avaient ouvert un club de plongée, mais quand même, les racines, elles sont là, elles sont dans le Luberon. C'est là le premier contact avec la nature, oui.
Oui, tout à fait. Le Luberon, la Provence un petit peu profonde, Luberon, les Alpilles, c'est ma terre d'origine.
Et vous avez un petit frère avec qui vous avez vécu une aventure absolument bouleversante. Il s'appelle Lucas. C'est le petit dernier, Lucas, c'est
tout
ça?
Tout à fait.
Voilà. Donc vous avez 15 ans d'écart.
15 ans d'écart.
Vous vous êtes pas beaucoup connu quand il était petit, sauf que arrive le moment où lui va avoir un accident de moto effroyable. Il s'est fait percuter par une voiture, la moto lui est tombée dessus, la moto a pris feu, il s'est réveillé après un coma à l'hôpital, on lui avait
amputé une jambe.
Voilà, donc il lui manque une jambe. Et avec ce petit frère, vous avez couru une course tous les deux, dans le désert. Lui, avec sa prothèse, et vous, avec vos deux jambes. Ça, c'est quand même une aventure absolument exceptionnelle qui a fait l'objet d'un précédent film qu'on peut voir sur YouTube. Je vous invite à le voir parce que les deux frères qui courent ensemble dans le désert, pourquoi vous l'avez embarqué ?
Parce que mon petit frère, il a eu cet accident fin adolescent, c'était un moment hyper difficile pour lui. C'est le moment où on bascule dans l'âge adulte, où on veut construire sa confiance. Ouais. Et c'est vrai que quand je le voyais dans sa chambre à se morfondre sur son sort, à dire des choses du style « j'aurai plus jamais d'amis, plus de copines, ma vie est foutue », j'ai voulu le sortir un petit peu de ce tourment émotionnel dur pour lui. Et je lui ai dit « écoute, on va partir à l'aventure et tu vas montrer que toi aussi t'es capable au même titre que les gens valides ». Et voilà, le désert offre aussi cette paix, et cette paix pour pouvoir avoir des discussions un petit peu profondes et rattraper un peu le temps perdu, comme vous l'avez dit tout à l'heure. J'ai pas pu grandir avec lui, on a eu des belles discussions ensemble, et au fond de lui, il avait un rêve aussi de devenir éventuellement athlète, aventurier comme moi, et beaucoup de barrières mentales, société, éducative, famille, et on a fait tomber pas mal de barrières ensemble dans
alors,
le
résultat, c'est qu'aujourd'hui...
Alors le résultat, c'est qu'aujourd'hui, il porte l'équipement de l'équipe de France de snowboard paralympique et il est dans le projet de participer aux Jeux Olympiques, aux Paralympiques de Alpes 2030 dans 4 ans.
Et on vous voit préparer la course tous les deux, comme dans l'appel du silence, on vous voit préparer la course. C'est un peu comme dans un James Bond, c'est-à-dire que vous êtes avec des préparateurs de chez Salomon, votre sponsor, et vous examinez chaque matériel, chaque gadget, à quoi ça sert, combien ça pèse, vous faites des listes, etc. Et quand vous êtes avec Lucas, le préparateur lui conseille d'emporter un pied.
Oui, tout à fait.
Et il met un pied dans son sac à dos. C'est ça. Alors que sur sa prothèse, il a comme une
lame.
Une lame, ouais, une sorte de spatule.
En carbone pour pouvoir courir, tout à fait.
Voilà. C'est pas courant de se dire allez, on emporte
on
un pied.
On part avec un pied dans le dos.
Ouais. Avec Lucas, vous lui aviez proposé de vous rejoindre une première fois à la fin de l'UTMB. C'est quoi l'UTMB ?
L'UTMB, l'Ultra Trail du Mont Blanc, voici l'acronyme. Donc une course d'Ultra Trail, c'est peut-être la plus mythique au monde. On l'appelle le grand rendez-vous puisque tous les coureurs du monde entier se retrouvent là, les partenaires, les médias. Et la trace est belle parce qu'en fait, elle fait le tour du massif du Mont Blanc. Le Mont Blanc, cette montagne mythique qui est le toit de l'Europe et qui couvre 3 pays. On part de France, de Chamonix, on passe en Suisse, en Italie et on revient. C'est une grande boucle, 175 km, 10 000 mètres de dénivelé. C'est une course qui est vraiment très belle.
Alors là, c'est pas l'arrivée du Mont Blanc, c'est une arrivée d'une autre course mythique. On est à La Réunion, ça s'appelle la Diagonale des Fous.
Et la nuit de l'amour, il a souvent douté, mais jamais baissé les bras.
Et il est en train d'arriver pour remporter son premier Grand Raid. Le Grand Raid d'Avenir 2024. La Diagonale des Fous pour Mathieu Blanchard.
175 km, plus de 10 000 mètres de dénivelé positif. Là, c'est le moment où la profession vous adoube, Mathieu Blanchard.
Oui, tout à fait. Il y a quatre grandes courses mythiques dans notre sport. Deux aux États-Unis, une en France, l'UTMB, et puis cette fameuse Diagonale des Fous à l'île de la Réunion. C'est vrai que c'est les majeurs qu'on rêve tous de gagner au moins une fois dans une vie. Et c'est vrai qu'en 2024, j'ai eu la chance de remporter cette grande course.
Sauf que vous, vous étiez déjà inscrit et vous n'aviez pas couru la Diagonale des Fous. Vous aviez préféré participer à Koh-Lanta.
Oui, tout à fait. Drôle d'histoire avec la Diagonale des Fous. J'avais eu un dossard quelques années avant. Et puis, à la veille de la course, j'étais déjà sur place. J'avais fait la tournée médiatique, comme quoi je participais. Et il faut rester un petit peu confidentiel, j'avais été appelé par la prod de Koh-Lanta. Il faut y aller maintenant, tout de suite, on va au Fidji et ça part pour l'émission. Donc j'avais quitté discrètement l'île de la Réunion pour rejoindre le tournage.
Et donc quand j'ai dit en introduction que forcément les grands puristes de la profession vous ont vu arriver là dans ces ultra-trails comme un touriste, c'est vrai ? Ils vous ont pris de haut ?
Oui, c'est vrai, le grand public voit la télé-réalité comme une seule télé-réalité, quoi, au même titre que d'autres télé-réalités. Donc j'étais vraiment le gars de la télé-réalité qui fait du trail et pas l'inverse. Ça me gênait un petit peu quand j'arrivais sur les courses d'avoir cette casquette-là. Mais heureusement que la performance, c'est ce que j'ai montré sur le terrain, a inversé un petit peu voilà. La donne. Et aujourd'hui, voilà, je suis reconnu pour ce qui me passionne, c'est-à-dire l'ultra-trail et les sports d'endurance, d'aventure.
Qu'est-ce qui vous fait rêver maintenant, Mathieu Blanchard ?
J'ai énormément de rêves dans ma vie. Et les rêves, pour moi, ce n'est pas quelque chose d'illusoire qu'on vit la nuit. Un rêve, c'est quelque chose, voilà, c'est un objectif ambitieux de passion là, dans les tripes et surtout fixé dans le temps. C'est ça, un rêve. C'est comme ça qu'on réalise un objectif ambitieux, c'est de le fixer dans le temps. Et là, c'est vrai que le monde polaire m'attire énormément. C'est quelque chose qui est assez hostile. C'est assez étonnant quand on voit le film de se dire comment on peut être attiré par un milieu comme ça. C'est au fond de
c'est
moi.
Assez c'est assez étonnant quand on a grandi en Provence, non ?
Ouais,
c'est assez étonnant quand on a grandi au pied des Alpes.
Au pied des Alpes, dans une région où il fait soleil quasiment toute l'année et où il fait bon, mais le grand nord, les contrées nordiques ont quelque chose d'assez puissant au niveau calme intérieur, silence, terre d'exploration. Et c'est vrai qu'il y a une grande course, peut-être l'épreuve la plus longue au monde d'ultra-endurance en Alaska qui s'appelle Lijitarod, qui fait 1600 km. Il faut faire ses armes avant d'y aller.
1600 km,
tout à fait.
Ça veut dire que là, en ayant remporté la Lapland que vous venez juste de remporter, vous avez gagné le droit de vous inscrire à Lijitarod.
Tout à fait. Il y a un long processus, puisque Lijitarod est vraiment très sauvage, avec très peu de checkpoints, et ils veulent vraiment des profils qui soient experts, donc ils nous obligent à participer et à terminer d'autres courses avant, d'où la participation à la Yukon Arctic Ultra et à la Laponie Arctic Ultra que je viens de faire la semaine dernière.
Donc ça y est, vous partez ?
Eh bien maintenant, il va falloir s'inscrire et être pris, hein. C'est pas moi qui décide, mais en tout cas, c'est les rêves sur les 2-3 prochaines années.
Mathieu Blanchard, star mondiale, je l'ai dit, de l'ultra-trail, merci d'avoir fait un crochet par cet univers extrêmement exotique, et donc le studio de France Inter, et puis L'Appel du silence, c'est donc ce film qui a été produit sur votre exploit dans le Yukon Quest, qu'on peut voir dans plusieurs salles en France, au cinéma, pour des soirées où vous venez en plus à la rencontre du public. Merci Mathieu.
Merci.
Un pas, une pierre, un chemin qui chemine, un reste de racine, c'est un peu solitaire, c'est un éclat de verre, c'est la vie, le soleil, c'est la mort, le sommeil, c'est un piège entrouvert, un arbre millénaire, un nœud dans le bois. C'est un chien qui aboie, c'est un oiseau dans l'air, c'est un tronc qui pourrit, c'est la neige qui fond, le mystère profond, la promesse de vie, c'est le souffle du vent au sommet des collines, c'est une vieille ruine, le vide et le néant, c'est la pie qui jacasse, c'est l'averse qui verse des torrents d'allégresse, ce sont les eaux de Mars, c'est le pied qui avance, à pas sûr, à pas lent. C'est la main qui se tend, c'est la pierre qu'on lance, c'est un trou dans la terre, un chemin qui chemine, un reste de racine, c'est un peu solitaire, c'est un oiseau dans l'air, un oiseau qui se pose, le jardin qu'on arrose, une source d'eau claire, une écharde, un clou, c'est la fièvre qui monte, c'est un compte à bon compte, c'est un peu rien du tout, un poisson, un geste, c'est comme du vif argent. C'est tout ce qu'on attend, c'est tout ce qui nous reste. C'est du bois, c'est un jour le bout du quai. Un alcool trafiqué, le chemin le plus court. C'est le cri d'un hibou, un corps ensommeillé, la voiture rouillée. C'est la boue, un pas, un pont, un crapaud qui croasse. C'est un chaland qui passe, c'est un bel horizon. C'est la saison des pluies, c'est la fonte des glaces. Ce sont les eaux de mars, la promesse de vie. C'est Jacques, un serpent qui attaque, une entaille au talon, un pas, une pierre, un chemin qui chemine, un reste de racine, c'est un peu solitaire, c'est l'hiver qui s'efface, la fin d'une saison, c'est la neige qui fond, ce sont les eaux de mars, la promesse de vie, le mystère profond, ce sont les eaux de mars, dans ton cœur tout au fond, pas de peine. Et un fin de camino, et un reste de toc, et un poco sozinho. Pas une pierre, chemin qui chemine, reste de racine.
Vous vous rendez compte qu'on vient d'entendre Georges Moustaki reprendre du Tom Jobin? Si c'est pas magnifique, ça s'appelle Les Eaux de Mars et c'était un tube en 1973. Vous êtes dans le Mac de la Grande Matinale, nous sommes ensemble jusqu'à 10h avec Charline Vanhoenacker, le
bonjour,
retour.
Bonjour, la France Inter. Je vais vous parler d'un sujet rassurant, les municipales.
Ah bah voilà.
Bah si, parce que avant de partir en vacances, je me suis dit, tiens, personne n'a rien à foutre. Et après une semaine d'absence avec le monde à l'envers, bah tout le monde a toujours rien à foutre. Bah donc c'est rassurant.
C'est le sujet de notre débat. Bonjour Daphné Burki.
Mais bonjour, je suis trop contente
de retour
de
aussi.
Voir.
Oui, nous aussi.
Voilà, alors, ça me fait plaisir. Matin, et bah, il faut du live, il faut de la musique. Elle s'appelle Zélie et son album s'appelle Le Cœur et sa dictature. Et moi j'ai le cœur qui bat d'être avec vous là.
Il est 9h20. Vous êtes sur France Inter et c'est l'heure du débat du jour.
Les gens aujourd'hui me demandent conseil pour plein de choses, même à la limite si c'est bien de se marier ou pas, ou etc.
On n'est plus des notables, vous savez, quand vous étiez maire en 1950, vous représentiez quand même quelque chose. Aujourd'hui, le maire, c'est tombé dans le quotidien des gens. Le maire, c'est le maire, quoi. Bon, c'est tout. Hein.
Les municipales, c'est dans moins d'une semaine. Quoi déjà, diront certains d'entre vous, mais où est passée la campagne? À quel moment les médias se sont-ils vraiment plongés dedans? Un militant d'extrême droite tabassé à mort, l'affaire Epstein, l'Iran sous les bombes. Y a-t-il eu tous les jours plus urgent, plus sexy, plus vendeur ou plus grave à traiter que ce qui se passe tout près de chez vous? La faute aux médias, la faute au public ou la faute aux candidats?
France Inter, la grande matinale, Sonia De Villers.
Les médias ont-ils zappé les municipales? Question qui concerne à la fois les médias mais aussi la démocratie. J'en discute ce matin avec Agnès Varamian, bonjour.
Bonjour Sonia.
Bonjour Agnès, vous êtes directrice de l'information du groupe Radio France depuis peu et directrice évidemment de France Info. Face à vous Blanche Léridon, bonjour.
Bonjour.
Directrice éditoriale de l'Institut Montaigne. On va peut-être commencer avec vous Blanche Léridon parce que vous étiez à ce micro il y a quelques temps et vous aviez cette sensation que la campagne était inexistante, qu'elle était morte d'un point de vue médiatique, hein, j'entends. Vous avez voulu vérifier, vous avez conduit une recherche, une étude sur le sujet et vous livrez vos conclusions dans une note intitulée « Municipal 2. Une drôle de campagne en dessous de la mêlée ». Pourquoi en dessous ?
Effectivement, mon intuition a été corroborée par des chiffres. Alors les chiffres qui ont été réunis par Magic Lamp et sa solution Pluralisme, qui est un outil d'intelligence artificielle qui permet de capter les retombées audiovisuelles. Hein, je précise bien, c'est-à-dire que là, on n'a pas la PQR, la presse quotidienne régionale, dont on sait à quel point elle s'empare de ces sujets-là, ni la presse nationale. Et donc, que montrent les courbes? Eh bien, les courbes, elles montrent effectivement...
Donc, c'est des courbes téléradio.
Voilà, téléradio, qu'on a un sous-traitement relatif de la campagne municipale. Depuis, on a fait démarrer l'étude au mois de septembre qui est le grand moment de lancement de la campagne dite préélectorale jusqu'à la fin du mois de février. Et on voit effectivement que les municipales sont en dessous des grands événements, guerre en Ukraine, guerre au Proche-Orient, à certains moments, affaire Epstein, Donald Trump, les droits de douane, y compris aussi la personnalité d'Emmanuel Macron. Et ce qui est aussi étonnant, c'est que cette courbe-là, elle stagne. C'est-à-dire qu'on aurait pu s'attendre à ce qu'elle reste, certes, en dessous des sujets que je viens de citer, mais qu'il y a une petite dynamique qui s'observe à l'approche du premier tour du scrutin. Et ce qu'on voit, c'est que...
Donc là, ces derniers jours, ces dernières semaines, ça n'a pas grimpé, ça n'a pas décollé.
On a arrêté la machine jeudi dernier, pour être très exact, et ça n'avait pas décollé. Le seul petit moment où on voit un décollage, c'est au moment du congrès des maires, à la mi-novembre, où il y avait peut-être aussi un tassement de l'actualité internationale. Mais ce qu'on a voulu montrer avec ça, c'est vraiment pas de dire les journalistes font mal leur travail, c'est d'essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu un intérêt massif à l'égard de cette campagne. Et pour moi, il y a trois sujets. Le premier, c'est évidemment la surabondance des sujets internationaux, qui ne fait pas que prendre de l'espace médiatique, mais qui change aussi la nature de votre attention.
C'est-à-dire
que quand vous êtes confronté à ça, évidemment, quand on vient vous parler d'enjeux locaux, de ramassage des déchets, de voirie ou de sécurité publique, ça peut vous paraître un tout petit peu en décalage.
Et puis aussi, un petit peu dérisoire. C'est-à-dire que quand Téhéran est sous les bombes, des affaires de pistes cyclables...
Exactement, peuvent vous paraître totalement en décalage avec l'actualité.
Alors attendez, bougez pas, parce que vous avez Agnès Varamian face à vous. Agnès Varamian, ce qui est intéressant, c'est que vous chapeautez à la fois une rédaction nationale, France Info, mais aussi toutes nos antennes locales et régionales. Est-ce que vous avez pu observer, évidemment, des antennes locales qui sont à l'œuvre et à la manœuvre, évidemment, mais une antenne nationale qui n'a ni le temps ni l'espace, ces derniers mois, ces dernières semaines, de s'occuper des municipales?
Bah, écoutez, moi, je regrette d'ailleurs que l'étude ne prenne pas en compte, effectivement, la couverture locale, tout simplement parce que c'est un peu... les municipales, les Jeux Olympiques de la presse quotidienne régionale. Donc, il y a une complémentarité.
C'est joli.
Il y a une... si vous voulez, il y a une séparation, en fait, des tâches, en quelque sorte. C'est-à-dire que le réseau ici, avec ses 44 locales, a vraiment... n'a jamais, lui, changé de thématique. Il n'est pas allé sur la guerre. Il est toujours... Il est allé sur les conséquences de la guerre, avec le prix de l'essence, etc. Mais si vous voulez, il a quand même fait le job en termes de débat démocratique, de reportage, etc. Et d'ailleurs, le chiffre le montre, je veux dire, 70% des Français sont intéressés par les municipales. Et d'ailleurs, même quand on les sollicite, ils répondent. Le réseau ici avec France Télévisions a même lancé des consultations et il y a plus de 100 000 personnes qui ont répondu. Donc, si vous voulez, c'est une chose de dire les médias, entre guillemets, font l'agenda, et puis sur le national et l'international, mais il faut quand même se dire que probablement que les électeurs au niveau local, ils vont aussi voter sur des problématiques locales, c'est-à-dire qu'ils ne nationalisent pas, ils n'internationalisent pas leur scrutin, si vous voulez.
Donc, c'est ça.
Je pense que...
Et c'est intéressant ce que vous dites et ce que ça induit. Je rappelle que dans un autre moment de votre carrière, vous avez aussi dirigé le 20h à l'époque de David Pujadas sur France 2. Ça signifie que les municipales, c'est pas l'affaire des médias nationaux, c'est pas l'affaire d'un 20h, c'est pas l'affaire d'une antenne nationale?
Pas complètement. Rien que sur le groupe Radio France, on a fait plus de 1100 sujets, toutes antennes confondues. J'ai fait le calcul pour vous. Ça fait quand même 10 sujets par antenne et par jour. C'est quand même beaucoup depuis le mois de janvier. Donc le job, il a été fait. On a fait des délocalisations, on a fait des reportages, on a consacré des journées spéciales sur l'antenne de France Info, des délocalisations sur France Culture, des face-à-face sur France Inter, si vous voulez. C'est pas comme si elle n'avait pas été traité. Mais encore une fois, il y a un partage des tâches, il y a une complémentarité, et ça veut dire que, si vous voulez, les médias locaux, l'APQR, la presse régionale, les réseaux des radios, etc., jouent un rôle fondamental quand les chaînes nationales en jouent un autre.
Alors, Blanche Léridon, c'est vrai que il y a quelques jours, BFM s'est piqué d'organiser un débat pour les municipales à Nice, un face-à-face Estrosi-Ciotti, et a fait une audience très, très, très déplorable, d'après ce que j'ai compris. Donc, on sent bien que les Niçois n'avaient pas tellement besoin de BFM ce jour-là pour voir s'affronter leurs deux principaux candidats.
Mais il est intéressant l'exemple de Nice que vous mentionnez, parce que là aussi, en dépit des enjeux, on voit que la campagne, et là, c'est tout particulièrement le cas ces 72 dernières heures, avec ce qui s'est passé, cette tête de cochon, enfin, vous avez sûrement suivi, on est dans une campagne...
Christian Estrosi a retrouvé une tête de cochon ensanglantée.
On est quand même dans une campagne extrêmement violente, extrêmement virulente. On a quand même énormément de difficultés à adresser les sujets de fond. Et c'est là où je reprends la tentative d'explication que je dressais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a certes la surabondance des sujets internationaux, ils sont là, et l'idée est évidemment pas de les marginaliser sous prétexte qu'il y a une élection en France, ce changement de la nature de l'attention, mais il y a aussi deux éléments plus endogènes. Le premier, c'est que tout le politique et ça commence à affecter le local qui était pourtant épargné par le phénomène massif de défiance à l'égard du politique qu'on observe en France, qui commence à pâtir aussi de cette crise politique qui n'en finit pas de finir depuis la dissolution.
Non, mais c'est important de le préciser, c'est-à-dire que jusqu'à présent, l'échelon des municipales échappait à la défiance.
Vous aviez, nous, dans Fracture française, on compare les degrés de confiance à l'égard des personnalités politiques. Le maire, dans la dernière édition, il était à 68%, le député à 20%. Donc on voit l'ordre de grandeur.
Pardonnez-moi, Blanche, bien sûr, il y a un lien très fort des citoyens avec leur maire.
Bien sûr, mais il y a une forme de lassitude à l'égard du politique en général qui fait qu'on va aller moins spontanément vers ces sujets-là. Et enfin, encore une fois, la façon dont les campagnes sont menées alors, dans un certain nombre de grandes villes. Moi, je ne peux pas vous donner la réalité des campagnes de terrain dans les 36 000 communes de France, mais on voit à Nice la nature des débats, même à Lyon, à Paris, où vous avez les deux principaux candidats qui refusent de débattre et d'accepter le rendez-vous du débat télévisé, ce qui a entraîné une annulation en chaîne des autres débats. Je trouve qu'on n'est pas à la hauteur, et c'est sûrement ça qui, à mon
Agnès
sens...
Varamian, c'est intéressant ça, l'idée qu'il y a des candidats qui refusent de débattre, et par ailleurs, j'aimerais que vous expliquiez aussi les contraintes des radios et des télés vis-à-vis de l'ARCOM, le calcul du temps de parole qui fait que c'est extrêmement difficile de faire venir des candidats locaux en plateau. Il faut que vous expliquiez pourquoi.
Bah, c'est un casse-tête le temps de parole, et en même temps, c'est la garantie du pluralisme. Donc, on ne s'en plaint pas, on ne fait que le gérer. Et effectivement, à partir du moment où on ouvre une case, on va dire, sur une ville, eh bien, nous devons respecter le principe de l'équité. C'est-à-dire, ce n'est pas un principe d'égalité, mais c'est un principe d'équité. Et donc, c'est à nous de juger de ce qu'est l'équité. C'est-à-dire, donner la parole aux candidats qui, dans les sondages, sont le plus en avance.
Mais ça veut dire qu'on ne peut pas inviter comme ça, en l'air, un candidat à Morlaix, un candidat à Nantes,
parce que vous ouvrez une case, entre guillemets,
et qu'il faut donner la parole à l'opposition.
Mais je dirais, sur la question des médias, en fait, peut-être que la vraie question, c'est est-ce que les médias choisissent de ne pas traiter les municipales parce que ce serait moins sexy, comme vous l'avez dit? Pour moi, la réponse
moins grave, moins urgent, moins vendeur. J'ai ouvert différents adjectifs.
Moi, la réponse, je pense, est non. Mm. Et puis, il y a une autre chose, c'est est-ce que cette guerre, est-ce que ces événements très anxiogènes, dont parlent beaucoup forcément les médias nationaux, peuvent changer l'élection? C'est-à-dire à quel point, parce que ça, c'est un sous-entendu ou un non-dit de ce que vous dites.
Comme en 2022, avec l'élection présidentielle.
Et là-dessus, on a quand même une enquête Ipsos BVA saisie, école d'ingénieurs, avec lesquels on travail, qui nous dit en fait, la majorité des gens, 83%, disent que leur choix va être fait sur des enjeux strictement locaux. Mmh. Et que par ailleurs, la question, moi, qui m'intéresse sur ces municipales, finalement, la guerre, ça fait qu'une semaine, donc c'est pas non plus... c'est un événement massif, mais ça ne dure pas depuis des mois et des mois.
C'est un événement massif qui a fait des audiences énormes sur les chaînes d'infos. Donc on voit bien que ça marche.
Ça marche. C'est pas que ça marche, c'est que ça suscite de l'intérêt. Ouais. Vous avez la première puissance mondiale qui entre en guerre contre un pays de 90 millions d'habitants, l'Iran, qui était sur le point s'est débattu, certes, mais d'avoir la bombe nucléaire, avec le Charles de Gaulle qui part là-bas, 400 000 Français qui sont coincés dans la zone, forcément, avec des prix de l'essence qui montent, c'est obligatoire que les gens aient besoin de comprendre. Mais ce que je voulais vous dire, c'est aussi que cette guerre, ce climat, cette anxiété, peut-être la polarisation aussi de la politique, finalement, et on peut réfléchir comme ça, elle peut-être aussi impacter le vote. C'est-à-dire qu'on se rend compte dans cette enquête Ipsos que 70% des personnes interrogées disent qu'elles sont satisfaites du travail de leur municipalité, si vous voulez. Donc, on peut se dire, ça veut dire que dans certaines municipalités, il n'y a pas vraiment de débat, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas d'enjeu. Et puis ensuite, est-ce que ce climat d'anxiété ne va pas accentuer le fait qu'on reconduise en fait les sortants? Est-ce qu'il ne va pas y avoir une prime aux sortants? Parce que finalement, quand le monde est en train de bouger aussi vite et que c'est anxieux, on n'a peut-être pas envie de renverser la table au niveau local.
Ouais. Blanche Léridon, ça pose quand même des vraies questions démocratiques. Vous l'avez dit, il y a la question on se plaint qu'il y ait de moins en moins de candidats à la mairie, de vocation pour devenir maire, mais il y a aussi un enjeu sur la participation électorale. Et la participation électorale, il y a eu des études, je pense par exemple aux études de Julia Cagé sur la presse locale et régionale aux États-Unis, où on voit que moins il y a de couverture médiatique et moins il y a de participation. C'est ça derrière l'enjeu.
Bien sûr, c'est ça l'enjeu. On sait en plus que les élections municipales ont des taux de participation très haut, c'est-à-dire que à part jusqu'à l'élection présent. Présidentielle, et évidemment, il faut enlever 2020 où la campagne avait été interrompue par le Covid, et donc vous aviez des taux de participation au premier tour notamment qui étaient très très bas. Mais sinon, on est plutôt autour de 65%, ce qui sont des taux de participation très très hauts dans le pays.
C'est ce qu'on espère là, c'est-à-dire voilà, revenir à 2014.
Et cette élection, elle est charnière pour moi dans le processus démocratique, c'est-à-dire que c'est la première élection depuis la dissolution de l'Assemblée nationale. Donc, est-ce qu'on est encore dans cette dynamique avec beaucoup de colère qui va rejaillir sur le scrutin? Et puis surtout, c'est la dernière, a priori, avant l'élection présidentielle. Donc c'est là où il y a tout cet habitus démocratique à reconstruire, c'est-à-dire prendre le temps d'aller regarder les programmes des uns et des autres, ne pas nécessairement, pour le coup, dans ce contexte-là, céder à l'intelligence artificielle la possibilité de faire le choix à votre place. Moi, je suis assez surprise de voir le nombre d'outils d'IA qui se multiplient pour déléguer le choix du vote à une IA qui va nous dire « Ah, ben, vous habitez là, vous pensez ceci, cela, donc vous devriez voter pour tel ou tel candidat. » Et donc, voilà, c'est le moment où on peut réintégrer un peu cet habitus démocratique qui a été très polarisé lors de la dernière élection et qui devra être, selon moi, voilà, soigné pour la prochaine.
Vous vouliez...
Conclusion, oui, les médias ont un rôle
à jouer.
Et encore plus l'audiovisuel public, disons-le sur cette antenne. D'ailleurs, saluons le travail des équipes pour ça. Et en même temps, attention, vous le disiez, Blanche, et un Français sur deux a déjà utilisé l'IA générative pour se renseigner sur la politique. 30% pour les élections municipales vont se renseigner sur ChatGPT. C'est quand même 64% pour les 25-34 ans. Donc, les médias, oui, et le reste alors.
Et le reste, c'est ça. France Info, France Inter et ici, au passage. Agnès Varamian, merci d'avoir fait un détour donc par le cinquième étage.
Merci
Blanche Géridon, directrice éditoriale de l'Institut Montaigne. Merci à toutes les deux.
Merci
le choix
beaucoup.
Musical de la grande matinale aujourd'hui, c'est la chanteuse Hayley Williams, Kill Me.
Eldest daughters never miss their chances to learn the hardest lessons again and again. Carrying my mother's torment, I think I'm where the bloodline ends. I'll never do the right thing again. Go ahead and kill me.
Thank you.
Hayley Williams. Et ben, si vous l'avez aimé, que vous habitez pas trop loin de Paris, et ben, vous allez la voir au festival We Love Green le 6 juin en concert. Il est 9h46. C'est le retour de Charline Van Honecker. C'est le retour de Charline Explose les Faits.
Oui. Je me suis absentée la bonne semaine pour me détacher un petit peu de l'actualité.
Oui, c'est ça, voilà.
C'est ça. Alors, c'est excellent pour la santé mentale. Je vous cache pas qu'on en bave un petit peu au retour, mais je remonte en selle, là. Je suis en train de rattraper mon retard sur toute cette folie qui colonise notre attention, là. Et il est temps, hein, à seulement 6 jours des municipales.
Voilà.
C'est ça le sujet, non?
Oui, c'est ouais, ça le sujet. Ça, ouais.
En tout cas, moi, désolée, mais j'ai misé tout là-dessus ce matin.
Si.
Donc, on va y aller. Hein. Après, il ne faut pas perdre de vue qu'il se passe sans doute des choses plus graves dans le monde. Et je me permets de le dire, il ne faudrait pas que les municipales invisibilisent ce qui pourrait se passer ailleurs. Mais on en arrive enfin au bout de cette campagne. Plus que 6 dodo avant de savoir si Emmanuel Grégoire sera au second tour à Paris. Et pour les Parisiens, plus que 6 dodo pour savoir qui est Emmanuel Grégoire. Oh là là, quelle frénésie! Daphné, j'ai pas senti la frénésie, mais c'est pas grave. Les choses sont mal faites parce qu'il y a 68 communes sans aucun candidat. Par exemple, si Emmanuel Grégoire s'était présenté à Fléré-la-Rivière dans l'Indre, il serait peut-être même déjà élu. Alors, il ne reste plus qu'une petite semaine à Jean-Michel Aulas pour essayer de répondre correctement à une question sur son programme politique pour Lyon. Et plus qu'une petite semaine pour Rachida Dati pour dépasser la barre des 120 000 followers sur TikTok. Juste avant de partir en vacances, je me souviens qu'on en était resté sur le ralliement de la chanteuse Coxy à la liste de Sarah Knafou.
Oui.
Il s'est passé des trucs depuis ou pas?
Non.
On sait quel candidat a reçu le soutien d'Ophélie Winter?
Non
je
plus.
Je brûle de savoir. Daphné, ça manque d'enthousiasme. Je sais pas pourquoi, c'est bon.
Je sais pas pourquoi.
On est dans la ligne droite de la campagne, là. Vous vous rendez
compte?
Ah, ça, vous allez voter. Ah, voilà. Vous vous rendez compte? On n'avait même pas remarqué que la campagne avait déjà commencé. Faut dire que ça passe tellement vite quand on s'amuse, hein, vraiment. C'est peut-être dû aux responsables politiques nationaux qui préfèrent passer directement à la présidentielle. Et ça, c'est les mêmes qui vont pas au boulot en disant non, mais j'attends une grosse promotion. J'irai au bureau quand ce sera calé. Même dans les grandes villes, la campagne pour les municipales, ça patine. C'est comme une influenceuse à Dubaï, ça n'arrive pas à décoller. C'est catastrophique. La semaine dernière, j'ai croisé personne qui comptait aller voter aux municipales en France. Bon, après, j'ai passé ma semaine en Belgique.
C'est ça, c'est ça.
Oui, c'est peut-être ça. Ouais, mais je suis sûre qu'en dehors des grandes villes, il y a plein de gens qui s'intéressent vraiment au scrutin local. Et c'est important. Un responsable politique qu'on peut aller engueuler directement devant la poste ou chez le boucher, comme ça en circuit court, c'est important. Puis vu ce que Trump fait au pays qu'il considère comme non démocratique, je conseille vraiment aux Français d'aller voter. Alors, je sais que généralement le dimanche, c'est le jour où on se contente de regarder quel dirigeant étranger se fait enlever ou buter par Trump. Mais avec un petit peu de chance, il n'attaquera Cuba que lundi prochain.
Très bien. Et Charline Van Honecker, elle vote où?
Bah,
en Belgique.
Oui, en Belgique et à Paris comme ressortissante européenne.
Formidable.
Eh ouais.
La grande matinale sur France Inter.
Daphné Burki, le retour. Et sa nouvelle tête.
Et je suis trop contente d'être là. Et il est 9h50, les amis, et nous sommes en direct dans le studio de la grande matinale de France Inter. Ma nouvelle tête ce matin s'appelle Zélie. Autrice, compositrice, interprète, et puis au départ, danseuse.
Tu as dit qu'il fallait se perdre pour se retrouver. Se retrouver. Qui l'a dit? Celui qui l'a dit devait savoir de quoi il parlait. Et c'est parfait. Il a dit.
Elle a commencé au conservatoire, avec un rapport presque militaire hein, au corps. Et puis un jour, elle a compris qu'il lui manque quelque chose, les mots. Elle pianote un peu, mais en 2022, elle poste sur TikTok 5 secondes d'une reprise de Dominique A. Au revoir mon amour.
Au revoir mon amour, peut-être un autre jour, peut-être une autre année.
5 secondes. C'était vraiment ça, 5 secondes Sonia. Mais 5 secondes qui changent tout. Une très belle viralité, s'ensuit un label, un premier album, une tournée, aujourd'hui un deuxième disque avec un Olympia qui se profile. Bonjour Zélie, bienvenue sur France Inter.
Bonjour, merci beaucoup.
C'est dingue 5 secondes quand même qui changent un peu,
eh
qui
oui,
participent
quoi, hein.
À changer en tout cas une vie.
Complètement. C'était complètement inattendu.
Ben ouais. 5 secondes, ça c'est la durée d'une vidéo virale, mais une seconde, c'était peut-être le temps qu'a pris cette pause que vous prenez sur la couverture de cet album. Alors il faut en parler, je vais la montrer en même temps, vous pouvez regarder sur les réseaux sociaux à Charline et à Sonia. On voit un visage plein cadre, vous souriez mais la langue part de travers, le regard louche vers le haut, ce qui est très difficile, les yeux deviennent blancs comme possédés, on dirait une espèce d'autoportrait de Caravage qui a bu un peu trop vite une vodka associée à une boisson énergisante. Cette image, elle dit tout du projet ?
Elle dit beaucoup du projet, en tout cas, dans sa folie et en même temps, il y a un côté assez pop et solaire à cette image que j'aime bien. Et j'avais vraiment envie de choquer un peu les gens qui m'écoutent, les gens qui ne m'écoutent pas aussi. De choquer ma mère aussi, si possible.
Elle était contente ?
Pas tellement, non. Elle n'a pas trop kiffé la pochette. Mais et moi, j'ai été assez. Je me suis sentie assez soutenue par tout ce qui se passe dans la pop en ce moment où on arrête un petit peu de penser qu'être jolie sur sa pochette, c'est l'essentiel. Donc voilà, je la kiffe trop.
Elle est trop réussie, cette pochette. Et votre corps, je le disais, ça devait être normalement votre premier langage, 20 heures de danse par semaine en école avec horaire aménagé. Est-ce que c'est le ukulélé ou la chanteuse Angèle qui vous ont fait comprendre que la danse, ça ne suffirait pas ?
Complètement. Je pense que découvrir Angèle, ça m'a permis de découvrir, je sais pas, une forme de m'exprimer autrement que par la danse. Je me souviens quand je l'ai découvert, je me suis dit punaise, on peut aussi, être jeune, parler de ces sujets-là, elle donnait envie de faire la fête, elle donnait envie de réfléchir et tout, et ça m'a trop donné envie de faire pareil. Il y avait Vidéo Club aussi qui m'a pas mal inspirée à ce moment-là. Et voilà, ouais, le ukulélé, ça a été aussi. Une belle découverte.
C'est vos amis qui vous l'ont offert à 17 ans. Il vous a bien accompagné. Mais dans les anecdotes, vous étiez allé voir un concert avec vos parents, justement, d'Angèle. Et c'est en regardant la scène, non pas Angèle, mais en voyant le regard de votre père qui regardait cette chanteuse sur scène, que ça vous a provoqué une sorte de déclic.
Ouais, complètement.
Qu'est-ce que vous avez vu dans le regard de votre père ?
Bah, de l'admiration, de l'amusement, de... Je sais pas, je me suis dit... J'ai besoin qu'il me voit faire ça un jour parce que je sens que j'ai ça en moi aussi, mais qu'il ne le sait pas encore.
Résultat, ça a fonctionné. Qu'est-ce qu'on va, on va entendre la fin des cours, qui est l'un des titres de cet album, où vous racontez un peu tout d'ailleurs.
Personne pourrait croire avec moi, m'en fiche au fond, c'est marrant. Tes chansons pour les copines, parce qu'il n'y a qu'elle au départ. Les garçons parlaient de rimes.
Vous racontez que vous séchiez les cours pour écrire donc des chansons sur l'ordinateur familial, des chansons pour les copines parce que bon bah il y a qu'elle au départ. Et vos parents qui viennent pas du tout de ce milieu, ils travaillent dans le marketing. Est-ce que l'annonce d'une carrière pas du tout balisée, ça s'est bien passé ?
Oui, de ouf. En vrai, je pense que c'était un peu étonnant pour eux, mais enfin je me souviens encore précisément de la tête qu'ils ont fait quand je leur ai dit que je voulais faire ça. Et je pense qu'ils s'attendaient à ce que ce soit passager, mais ils ont assez vite été convaincus. En vrai, mes parents, ils sont quand même très touchés par l'art de manière générale. Enfin, j'ai été très vite ouverte à ça. Donc quand ils ont entendu mes chansons très rapidement, alors pourtant c'était vraiment naze hein, au départ, mais ils étaient très vite convaincus et ils m'ont toujours vue comme quelqu'un qui allait faire quelque chose avec son art, quoi. Donc peu importe la manière, ils étaient contents.
Et là, vous allez nous interpréter un titre de cet album qui s'appelle « Je ne serai jamais ». Vous êtes accompagnée par votre guitariste qui s'appelle Caméléon. Alors Zélie, le micro de France Inter et le studio est tout à vous.
C'est parti.
Je ne serai jamais celle qui dort bien 8 heures par nuit, j'en lirai jusqu'à l'aurore. Non, je serai toujours celle qui sort trop. La peur, l'ennui, oui je l'ai rejeté alors. Je ne serai jamais celle qu'on appelle ou celle qui te rappelle, parce que je t'ai fait croire que jamais, jamais je n'aurais besoin d'aide. En voilà un truc faux. Allez, dis-le, tu as tant besoin d'elle. Je ne serai jamais sublime et jamais grande, jamais cette fille à qui tu demandes. Veux-tu danser? Veux-tu danser avec moi? Non, je serai celle qui essaye d'être une grande, viser le ciel sans qu'on lui demande. Veux-tu le toucher? Je veux le toucher, moi. Je veux le toucher, moi.
Cet album, il s'appelle « Le cœur et sa dictature ». Vous dites que vous ne serez jamais la fille parfaite, comme dans ce live. Vous y parlez aussi des injonctions faites aux femmes, du rapport au corps, des violences sexuelles, de l'assignation des genres, de la pression sur le corps féminin, comme dans ce titre qui s'appelle « Mon corps ».
Toute ma vie, je serai coincée dans ce corps, combattant les étiquettes qu'on me colle, oubliant tes mains comme un coma. Tu m'as écouté, oui, mais c'est comment? Mauvais pressentiments viennent
aussi. On vous a appris à discipliner votre corps au conservatoire. Ensuite, vous avez appris à l'écouter. Aujourd'hui, c'est quoi votre rapport au corps?
Eh bah, bien, tout récemment, je me sens très bien dans mon corps. En réalité, je pense que ça prend du temps en tant que femme de se détacher un peu de toutes les manières dont notre corps il est traité. Il nous appartient plus au bout d'un moment. Moi, à partir de mes 9 ans jusqu'à maintenant, j'ai l'impression qu'il a vécu tellement de choses différentes, des belles choses, des pas belles choses. Enfin, ça se dit pas, mais aujourd'hui, je sens qu'il m'appartient, je le trouve beau, et il vit des choses, il connaît le vrai plaisir, et ça, je le sens vraiment que c'est à cet âge-là que ça se passe, quoi.
Et aujourd'hui, Zélie et son corps vont partir en tournée, dès mercredi d'ailleurs, avec cet album. Le titre est si joli, Le cœur et sa dictature, c'est tellement vrai. Et je vous ai proposé une carte blanche. Et alors, vous avez choisi de convoquer Françoise Hardy ainsi que tous les garçons et toutes les filles. Alors, je vous propose de reprendre le micro.
Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de Pardieu. Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est d'être heureux. Et les yeux dans les yeux, et la main dans la main, ils s'en vont amoureux, sans peur du lendemain. Oui, mais moi, je vais seule par les rues, l'âme en peine. Oui, mais moi, je vais seule, car personne ne m'aime.
Ah, joli! Joli, ça c'était cadeau.
Elle s'appelle Zélie, Z-E-L-I-E. Vous pouvez la suivre sur tous ses réseaux sociaux. L'album, donc Le cœur et ses dictatures, il est sorti. L'Olympia, le 1er décembre 2026, il est déjà complet,
non,
on est mal barré.
C'est vrai.
Donc je vous propose tout simplement de la suivre pour voir où elle sera en tournée, puisqu'elle part à partir de mercredi sur scène. Bravo Zélie, à bientôt.
Merci.
Voilà, et merci aussi à Caméléon qui vous accompagnait ce matin. Merci Daphné, c'est la fin de la grande matinale. Alors cette semaine, la grande matinale à la rédaction en chef, vous avez Mickaël Thébault et Thibaut Cavaillès, assistés de Sylvain Lesage. À la technique, Rémi Sistiaga et Maxime Goudard, salut les garçons. À la réalisation, Maria Pasquet et Christophe Imbert. À la programmation et à la documentation, il y a Charlotte Matou, il y a Amélie Stadelman, Perrine Malinge, Mathilde Clatt, Joachim Taïeb, Jean Brossier, Juliette Drone, Alexandra Brouillet, Emma Guyomard et Mao de Butler à la coordination.
Tout ça avec vos impôts.
Voilà, et nous remercions aussi les standardistes de France Inter qui sont payés aussi avec vos impôts.